Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Tout avait mal commencé. L'austérité, l'actu, la grisaille, une carte de bus perdue dans la neige. On n'avait vraiment pas le goût de continuer. Et puis, ils sont apparus. Le gars qui chante, celui qui se souvient de sa première voiture, et l'autre qui papote au musée. L'équipe de Micro-Cravate les a rencontrés. On a enfin ri. Aujourd'hui, l'émission est en mode optimiste. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 18e numéro de Micro-Cravate sur les ondes de choc. Avec vous, Anna Massé et Gauthier Piatek.
Salut Anna, bonjour à tous.
Et après vous avoir bien miné le moral lors de la dernière émission, on vous présente quelques sujets garantis sans gravité aucune. Les petites frustrations du quotidien passées au filtre auditif.
Que nos esprits s'épanouissent.
Premier reportage au Québec, Jean-Pierre Boucan a rencontré Émile Gruff, un chanteur entier, voire buté, un vrai francophone jusqu'au bout des ongles.
Moi, là, je suis très fier d'être Québécois et de la langue française, puis je vois ça un peu comme au sport. Moi, j'ai toujours aimé les négligés, j'ai toujours aimé les underdogs. Je les ouvre les guillemets, mais je vois ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on est négligé en Amérique du Nord, on a une langue qu'il faut protéger. Et je me fais un devoir de le faire. J'ai eu quelques idoles qui m'ont aidé à nourrir la flamme. C'est comme... Il y en a eu plusieurs. Harmonium, qui ont quand même conjugué politique et langue française. C'est l'instinct de survie, dans le fond, puis c'est l'orgueil de dire « ils nous auront pas, les Anglais ». Un samedi soir, je me souviens, j'étais allé au Tim Horton, dans l'ouest de la ville, et j'ai pas été foutu de me faire répondre en français. Et je me souviens que ça m'avait craqué un peu. Je me dis, ça n'a aucun bon sens qu'elle soit, elle comprenait pas là, ce qui se passait. Puis c'est pas moi qui allais plier devant elle. Alors, je suis bêtement parti, puis ça m'a inspiré pour composer cette chanson-là. Et en même temps, à cette époque-là, je travaillais à Laval, au Archambault, et ma foi, il pleuvait des Anglais. Ça me craquait dans mon orgueil. Et le profil des Anglais qui me tapait un petit peu ses nerfs, c'est ceux qui t'abordaient en anglais et qui, moi, finalement, je répondais en français. Mais c'est ceux qui, finalement, se mettaient à parler en français. Alors là, je me disais, pourquoi tu m'abordes en anglais, si tu parles très bien français? À la limite, si l'anglophone continuait à parler anglais, bien, je me pliais à son langage, puis il n'y avait pas de problème. Je me disais, c'est peut-être un touriste ou ma foi, il n'est juste pas bon en français. Mais ceux qui virent le capot de bord, ça me choque. Choquant. Voilà. Alors, c'est au Tim Horton, à Beaconsfield, que j'ai craqué. Je suis Émile Gruff et on est présentement au bar Les Passages. On va vous interpréter la chanson La langue de Shakespeare.
Où est-ce qu'il ouest la ville?
J'ai rendez-vous avec la langue de Shakespeare. Je m'en vais tout détruire dans un Dunkin' Donut si on daigne pas me répondre en français. Où est-ce qu'il est l'ouest de la ville? J'ai rendez-vous avec la langue de Shakespeare pour y mettre les points saisis. S'il n'y a pas saisi, c'est pas vrai que je vais tourner ma langue cette fois. Il faut pas vendre son âme, c'est le best buy qui l'aura. Mon lys commence à faner sous un ciel trop étoilé. Où est-ce qu'il est l'ouest de la ville? J'ai rendez-vous avec la langue de Shakespeare. L'histoire ne retiendra que l'avenir, une nation dans l'ombre d'un nom. Pardon en anglais, de toute façon, tu seras plus là pour constater les dégâts. Le « je me souviens », t'as juste à dire que tu t'en souvenais plus, que l'anglais c'est universel, que pour ta job c'est essentiel, tu gagneras ton ciel, moi j'accumulerai du fiel. Il faut pas vendre son âme, c'est le best buy qui l'aura. Mon lys commence à faner sous un ciel trop étoilé. Où est-ce qu'il est l'ouest de la ville? J'ai rendez-vous avec la langue de Shakespeare. On m'a tout faire pour la séduire, mais y'a pas grand chance que cette langue-là veuille frencher.
Hi.
Hi.
I'd like a croissant, please.
Yes, that's true, he would.
Okay, croissant, sure.
He's very popular.
Be more subtle about it. Mm, that's true, I suppose. He didn't have to say that. Je voudrais un croissant.
Oh, what?
Je voudrais un croissant, je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Gérard Depardieu. Baguette.
Baguette.
Fa 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 fa.
Micro-cravate.
Toujours à Montréal, cette semaine, Gauthier est allé au musée d'art contemporain pour l'ouverture des expos de Simon Starling et Sophie Calle. D'habitude, il laisse traîner ses oreilles à droite à gauche, mais là, pas possible. Trop de brouhaha au vernissage. Résultat, il nous confie ses impressions sur ce rendez-vous mondain et culturel.
Je suis allé à un vernissage au musée d'art contemporain de Montréal. Je fais la queue pour le vestiaire, mais j'ai pas envie de laisser mon sac. Alors je me faufile vers l'entrée. Il y a beaucoup de bruit et plein de gens qui discutent fort. Dans un coin, il y a un DJ qui tente de faire passer tant bien que mal ses vinyles.
Vous êtes chaud ce soir ?
À l'étage, on peut enfin s'approcher des œuvres. Il y a toujours un coin rempli de gens mondains qui discutent d'art ou d'autres choses en buvant du vin à 6 dollars le verre. Je rentre dans une pièce plus calme. Il y a une projection d'un homme qui marche en noir et blanc. C'est un peu chiant. Je me dirige vers une autre partie de l'exposition. Il y a un projecteur qui projette des images de bandes magnétiques. C'est une sorte de mise en abîme ou je sais pas quoi. Les gens s'approchent pour voir défiler le film au travers de la baie vitrée. Dans cette même grande pièce, il y a une Fiat 500 aux couleurs de la Pologne qui est accrochée au mur. C'est une sorte d'élan patriotique de l'artiste. Je sais pas trop. Les gens aiment bien se mettre en dessous pour regarder à l'intérieur de la voiture. L'autre partie de l'expo est consacrée à Sophie Calle. On voit des portraits de Turcs qui ont perdu la vue. À chaque petit portrait, il y a un texte qui explique comment ils ont perdu la vue. C'est plutôt triste. Les gens s'attroupent devant les portraits pour lire religieusement ces mini-biographies. Dans la grande salle à côté, il y a des gigantesques écrans. Et dessus est projeté des personnes qui voient la mer pour la première fois. C'est un peu émouvant. Et on entend la mer. Bon, il est temps de rentrer. Je m'éloigne du brouhaha du hall d'entrée et je me retrouve dehors à marcher dans la neige. Il fait un peu froid.
Je suis une hirondelle, sans cieux.
Retrouve la série de Paul Venet, Le goût des coquillettes. Le goût des coquillettes, c'est une histoire au parfum de cantine scolaire.
Aujourd'hui, Paul rencontre Rémi. Il se souvient de sa voiture rouge, du sable qui croustille et d'un combat épique contre une abeille. Enfin non, une guêpe.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille.
Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir gardien de koala avec une sarbacane.
C'est bon, c'est pas tout fromage, non? Ça m'appelle les coquillettes quand j'étais petite.
C'est grave.
Le goût.
Le goût.
Le goût.
Le goût.
Des coquillettes.
Des coquillettes.
Un hiver, à Paris, entre la porte de Clignancourt et Montmartre. Sur un canapé, Rémi roule une cigarette avec son tabac favori. Il porte un gilet gris, a noué un foulard autour de son cou et a une belle barbe, épaisse et bien fournie. Sur la table basse de son salon, des tasses de café et une boîte vide de cookies sont posées. Il se souvient.
Le premier souvenir que je voulais te raconter, je pense avoir dans les 3 ans. Ouais, un truc dans le genre. Mm-hmm. Ça devait être au printemps. Je sais pas, dans mon souvenir, je situe ça au printemps. C'était une belle journée. Je situe ça dans les alentours des 3 ans, enfin 3-4 ans, parce que mon souvenir se passe à l'école. Et à la récréation, évidemment. Et puis dans la cour, il y avait des infrastructures pour s'amuser. Il y avait un centre de toboggan, il me semble. Enfin, genre des jeux, quoi. Et un bac à sable. Et alors, j'avais reçu en cadeau, peu de temps avant, peut-être à mon anniversaire, qui sait, vu que c'est au printemps,
ouais.
Une petite voiture. C'était une Ferrari rouge, qui était de toute beauté. Alors, est-ce que les portes de la voiture s'ouvraient? Je ne sais plus, il ne me semble pas. Mais c'était donc une Ferrari rouge miniature. Et comme tout gamin avec ses jouets, quand il les reçoit, il les travaille partout. Je l'avais emmené à l'école. Et donc je jouais avec dans le bac à sable, et alors là c'est un peu flou, mais en gros dans mon souvenir, il y avait un mec qui venait me choper ma voiture, et je lui demandais qu'il me la rende, et il était là alors, non, pas possible. Et du coup évidemment,
m'était un peu en colère. Enfin, je ne saurais pas dire si mon sentiment, c'était genre une injustice ou... Enfin... Ouais, le sentiment d'avoir été spolié, de connaître l'auteur de ce méfait et de pouvoir rien faire. Enfin, il y avait une certaine frustration, voilà. Et dans mon souvenir, j'avais du sable dans la bouche. Et donc, cette situation m'a fait serrer la mâchoire et je sentais le sable, les grains de sable un peu croustillés sous mes dents, quoi. Et je crois que maintenant, enfin, quand je suis face à une situation un peu conflictuelle où la tension monte, enfin, qui fait d'une certaine façon référence à cette situation de bac à sable, je sais pas, il se passe quelque chose dans ma mâchoire, pas que j'ai une sensation d'avoir du sable sous la dent, mais ouais, il y a quelque chose de très dentaire, je dirais. Enfin, comme si, ouais, quelque chose me donnait envie de montrer les crocs un peu.
D'accord.
Voilà.
Et tu l'as récupéré ta voiture ou pas ?
Je ne sais pas. Je me souviens pas.
Je sais plus si tu l'as récupéré.
Je me souviens qu'après, j'avais une Ferrari jaune. Mais alors, est-ce que j'en avais eu deux ? Est-ce que finalement mes parents m'en ont racheté une parce que j'étais rentré en pleurant ? Je sais pas du tout. Je saurais pas dire.
Il y avait un deuxième souvenir que tu voulais me raconter ?
Ouais.
C'est plus tard celui-là.
C'est un peu plus tard, je pense que c'est... Ouais, je devais être en primaire, on va dire à mi-parcours, à peu près. J'étais dans le jardin de mes parents, c'était un beau matin ensoleillé. Pareil, ouais, je pense que c'était le début de l'été ou un week-end. Ouais, genre fin de printemps. On prenait le petit déjeuner dehors en famille. Et donc, je me souviens, j'étais en pyjama, pieds nus dans l'herbe, à la fraîche, quoi. Je bouffais mes tartines de confiture que je trempais dans mon chocolat chaud. Et je sais pas pourquoi, j'étais le dernier à table, peut-être que je m'étais réveillé après les autres, je me souviens pas. Et je becquetais et je flânais en regardant les fleurs, en profitant du soleil, quoi. Et au bout d'un moment, je pense... par l'odeur sucrée, une abeille alléchée est venue tourner autour de moi. Enfin non, c'était pas une abeille, pardon, c'était une guêpe. Et donc voilà, elle tournait autour de ma tartine, je la chassais, ensuite elle venait tourner autour de mes pieds, autour de mes jambes, etc. Ouais, elle commençait vraiment à m'ennuyer, cette guêpe. Je pouvais pas bouffer tranquille et elle venait rompre la paisible ambiance qui régnait. Et du coup, elle arrêtait pas de passer entre mes jambes et entre mes genoux et tout, et moi je continuais à manger, et quand même elle m'agaçait. Et du coup, à un moment, j'ai attendu qu'elle passe entre mes deux genoux, et j'ai vite fermé les jambes.
C'est une bonne idée ça.
Ah, c'était futé. Ah bah je l'ai niqué.
Elle t'a piqué ou pas ?
Elle aussi. Elle aussi, elle m'a niqué. Et donc j'étais à la fois très content de l'avoir niqué, enfin un peu en mode genre ninja. Genre ouais, mais un peu comme un chat, tu vois, je faisais genre j'étais pas intéressé et puis d'un coup tac. Et en même temps ça m'a fait très mal. Donc je pense que c'était un espèce de souvenir mélangé de satisfaction et de douleur. Voilà.
C'était Micro-Cravate. On salue les journalistes et artistes qui ont participé à l'émission, ainsi que tous ceux qui ont l'humeur changeante. Micro-Cravate revient le 8 mars. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous avez rendez-vous avec Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need two words.
Okay.
Micro cravate.
Micro cravate.